Ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ?
Offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ce maillot connerie, cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir.
Tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein.
Et on fait quoi maintenant ?
David.
Et 19h et des poussières, et c'est bien entendu le Canu Info du vendredi. Et pour commencer, une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'agenda. Et à vous parler du célèbre et incontournable agenda de la lutine.
On enchaînera avec un petit mode d'emploi contre la précarité, un rendez-vous samedi 5 décembre. On parlera également de la manifestation contre la loi dite de sécurité qui aura lieu demain à Lyon. Attention, le rendez-vous n'est pas place des Terreaux, mais place Maréchal Lyoté à Foch. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y aura, madame ?
Et il y aura le moment, le vrai est un moment du faux. Et après ça, on va vous parler, malgré les déclarations d'Olivier Véran, des suppressions de lits et des fermetures d'hôpitaux qui se poursuivent.
On enchaînera sur les mensonges liés aux pesticides. Guy Debord est encore avec nous.
Et puis évidemment, on vous parlera de maintenant, de ce présent qui est toujours plus sécuritaire, en commençant par une information qui nous vient du numéro 0 à Roanne, un mort suspect en détention.
On reviendra sur les violences sur Arthur le 10 décembre 2019 et on enchaînera avec Calais. Et on parlera de quoi à Calais ?
À Calais, on va vous parler de cette mairie qui rase les bois en bordure de route ou dans les zones de promenade où les exilés ont l'habitude de camper.
On enchaînera avec un petit passage sur les flics qui sont toujours structurellement fascistes. Et puis on enchaînera avec de bonnes nouvelles, allez on va dire bonnes nouvelles concernant le dossier Adama Traoré.
Et puis parce que les pourris sont partout, on vous parlera de Guéant, on vous parlera de Sarkozy. Et finalement la sécurité, le sécuritaire c'est aussi dans le futur. Donc on va vous parler de ces projets de loi, du projet de loi sécurité globale où il n'y a pas que l'article 24 qui fait flipper. Et de la loi sur les séparatismes.
On parlera en effet de la loi sur les séparatismes et de ce climat islamophobe qui pue et qui pourrit l'ambiance. On parlera également de la dissolution il y a deux jours du CCIF en Conseil des ministres. On enchaînera avec l'armée.
Ok, et puis visiblement, on vous parlera un peu d'écologie puisque nous sommes tous des amis. On vous parlera de la 5G.
Voilà, voilà, bonne écoute sur les ondes de Radio Canu. C'est le Canu Info, il est 19h08 et on commence dans un instant.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, l'agenda. Et oui, l'agenda du Canu Info du vendredi. Pourquoi l'agenda du Canu Info du vendredi ? Et bien parce qu'on a la chance d'avoir une personne qui vient de la lutine. Et alors la lutine, bien sûr, toutes les auditrices et tous les auditeurs se demandent ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que la lutine ?
Eh ben, c'est pas très très loin, parce que tu dis que je viens de la lutine, mais franchement, c'est 91 rue Montesquieu, Lyon 7e. Anciennement, le squat de la douane D. Et maintenant, bah écoute, c'est juste un lieu autogéré, anti-autoritaire, où il se passe plein de choses. Il y a différents collectifs qui peuvent se réunir pour parler de ce qu'ils font. Il y a à l'arrière l'atelier de sérigraphie autogéré de Black Screen. Et à la lutine également, on peut y trouver des disques, des zines et des livres. Voilà, plein de choses super cool.
Mais alors, parce que moi, il y a des copains et des copines qui y vont, ils me disent qu'on est obligé d'écouter du punk à la Lucine, c'est vrai ?
Bon, c'est un peu vrai, mais pas que. Il y a aussi plein d'autres choses. Il y a du hip-hop, de l'électro, du plein d'autres styles de musique. Il y a aussi, effectivement, comme je disais, des zines et des livres. Et on peut boire du café et surtout boire des bières quand c'est le soir.
Et du coup, c'est ouvert quand, la Lutine, quand on veut faire ça, pas écouter que du punk et boire des bières ?
Eh bien, alors, c'est ouvert tous les samedis après-midi, de 14h à 18h. En ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais on réouvre ce samedi de 14 à 17h. Bon, bien qu'il y ait la manifestation, on est quand même un petit peu ouvert. On respecte les gestes barrières, les conditions sanitaires. Mais vous pouvez quand même passer pour discuter avec les gens qui feront l'ouverture, écouter de la musique. Voilà, plein de choses sympas.
Et du coup, là, vous allez ouvrir deux samedis de suite pour vendre le calendrier de Black Screen et la revue Adra. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Eh bien, alors, le calendrier de Black Screen, normalement, tout le monde connaît. C'est un super calendrier sérigraphié depuis des années. Et voilà, donc on fera les permanences d'ouverture le samedi 12 et le samedi 19 décembre de 14 à 18h. Donc le calendrier est sérigraphié donc dans le local autogéré de Black Screen, et il y aura effectivement aussi la sortie du numéro 5 du Gravezine local Adra, avec des dessins de plein de gens de partout, et les bénéfices de tout ça iront en soutien au lieu de la Lutine.
Et c'est qui a participé pour le calendrier du coup ?
Ouh là là, mais des artistes internationalement reconnus pour leur art incroyable. Je vous cite pêle-mêle, nous avons l'HK, nous avons Bach Sabbath, Mieux Mieux 9-2, ou 92, je ne suis pas trop sûr, Suka Makube, Hack, Jax, Ratcharge, Piano Piano, Torpé, Johnny Roquefort, Damien et Isaac, L.I.A.V., Riton la Mort et Yvan Brun. Et Adra, alors il y a quelques personnes que j'ai déjà citées, il y a aussi pêle-mêle Christophe Bernard, Olivier Voyou, Antipathique, Bertoyas, Ricky Ranson, Bonnie Lacoin, Simone F. Bauman, TKS Artworks et plein d'autres encore.
Et du coup, si jamais on voulait contacter de la Lutine, comment on fait ?
Eh bien, alors, vous pouvez nous follow sur Insta parce qu'on est hyper moderne. Et pour ça, vous tapez Distro Lutine. Et après, vous vous laissez guider parce que, honnêtement, je ne sais pas trop comment ça marche Instagram, mais on y a un Instagram. Sinon, vous pouvez faire le bon vieux mail si vous êtes comme moi et que vous n'y connaissez rien. Vous pouvez écrire à grande-du-6-lutine, L-U-T-I-N-E, @rebellion.info.
Et j'ai oublié de te demander, mais ça coûte combien ce calendrier ?
Aïe. Alors ça, on n'est pas encore très fixé. Hein. Le calendrier sera entre 8 et 10 euros, parce qu'on n'a pas encore vraiment calculé le prix de revient. Et on a essayé de faire ça bien, mais on a eu quelques déboires techniques, notamment, bon, c'est un petit peu de ma faute, on a commencé à sérigraphier les 200 pages pour le mois de juin à l'envers, ce qui donnait le mois de nuige. Donc il a fallu rattraper cette bévue. Et mercredi, quand on a voulu faire la dernière page, le cadre s'est fendu. Donc on a dû rajouter encore du scotch. Donc on a un budget scotch très très haut. Mais voilà, on essaie de réduire ça comme il faut, et ce sera entre 8 et 10 euros. Voilà.
Et du coup, tout ça, ça se passera samedi prochain, le 12, tout ou samedi 19 décembre, au 91 rue Montesquieu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Venez, les calendriers, ils sont super cool, ça fait des jolis cadeaux de Noël. La revue Adra, pareil, c'est super bien, c'est des dessins, des photos, des collages. Pareil, un super cadeau de Noël que vous pouvez offrir aux autres ou à vous-même, parce qu'il faut se faire plaisir en ces temps difficiles. Et puis, si on a le droit, et puis même si on n'a pas le droit, tant pis, vous aurez peut-être du vin chaud qui vous sera proposé. Donc ça fait une autre bonne occasion de venir nous voir.
Et donc demain après-midi, si vous avez envie d'aller écouter du punk à la Lutine, vous pouvez y aller.
Autre chose que du punk. Hein.
Mais vous pouvez aussi aller à la manif, puis aller à la Lutine.
Et oui.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup. Et donc, à la manif, c'est quand la manif et c'est pourquoi?
Mais disons les manifs quand même, parce qu'il y a plusieurs manifs demain. Et du coup, la première, c'est quand même celle appelée à 14h, parce qu'on peut faire les deux par la Cégette, non?
Eh oui, c'est ça. Il y a une manif appelée par la Cégette et son comité national des travailleurs privés d'emploi. Comité qui rappelle que le chômage explose et qu'il y avait plein de lois ultra vénères sur l'assurance chômage. Et qui appelle à une manif à 14h à Grange-Blanche en direction du MEDEF qui est situé entre Grange-Blanche et Mermoz, avec plein de revendications super chouettes comme le temps de travail à 32h, l'annulation de la réforme chômage qui est en cours, l'ouverture de droits à toutes et tous et une sécurité à 100%.
Et oui, une manif qui fait un peu la fin de toutes ces manifs que vous avez vues passer ces derniers jours de chaque secteur d'activité précarisé par le gouvernement actuel et les gouvernements précédents. Mais surtout, on a envie de vous parler de la manif contre la loi dite de sécurité globale, parce que ça y est, on commence à se retrouver dans ces manifs-là. Elles ont commencé le 17 novembre, le mardi soir, ça y est, relieu le 24 novembre, et surtout la semaine dernière, ça nous a donné grave la pêche. Cette grande manif, on a été environ 15 000 personnes à manifester. Grave la pêche. Je pense au moins 15 500, c'était fou. Fou. Et du coup, demain, rebelote. Et
nous,
on espère...
on ne s'est jamais dissocié.
être encore plus nombreux et plus nombreuses. Alors attention, parce que la préf, elle a quand même compris que cadeau de Noël, manifestation des derniers, parce qu'on est très nombreuses, c'est compliqué pour eux. Donc ils ont refusé le rassemblement au terreau. Donc le rendez-vous est finalement place Maréchal Lyautey. Alors Maréchal Lyautey, c'est un gros con, mais c'est aussi une place qui a en face des terreaux, qui est au niveau de Foch. Donc c'est là que vous pouvez vous retrouver à 15h pour manifester. Et ça ira vers la Guy et peut-être vers Bellecour.
Ok. Et bah, on continue notre fil info, sachant que j'ai un petit technicien à ma droite qui essaye de passer un coup de fil pour une info hors du commun et toute fraîche. Mais on continue, on verra quand ça arrive.
Et ben très bien. Alors on enchaîne.
Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Considérer selon ses propres termes, le spectacle est l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Le vrai est un moment du faux.
Il avait pas tort, le vieux Guy. Le vrai est un moment du faux dans le monde spectaculaire. Et le vrai est un moment du faux dans le monde spectaculaire, encore plus en politique, puisque souvenons-nous que le gouvernement fait tout pour nous préserver du Covid. Véran disait le 18 novembre qu'il sortait totalement du dogme de la réduction des lits lorsqu'il y a des transformations de projets hospitaliers. Ça, c'est terminé. C'est terminé, il a dit le 18 novembre, Olivier Véran. Et pendant ce temps-là, Bastamag... On a un petit problème technique avec un téléphone qui vient de me tomber dessus. Pendant ce temps-là, Bastamag, ne croyant pas aux annonces du gouvernement, a fait un petit peu ses recherches et a trouvé qu'il y a 50 lits qui ont été fermés à Juvisy, en région parisienne, et puis 200 lits qui devraient être fermés à Nancy, 200 lits hospitaliers. Et puis il rappelle aussi qu'en 2019, c'est 3400 lits qui ont été fermés, 4000 en 2018, entre 2003 et 2017, 69 000 places d'hospitalisation à temps complet ont été perdues. C'est 40% des maternités qui ont fermé. En France, les soignants rappellent que malgré les annonces du gouvernement, c'est toujours les mêmes politiques gestionnaires qui sont à l'œuvre dans les hôpitaux et que ça ne risque pas de s'arranger. On peut retrouver la carte de toutes les suppressions de lits sur Bastamag. On peut aussi trouver un chouette article sur des collectifs qui se mobilisent contre les fermetures de lits et les fermetures d'hôpitaux et qui arrivent à faire ralentir en fait ces fermetures et qui arrivent à créer des maisons de santé.
Et oui, le vrai est un moment du faux, notamment quand on vous parle de pesticides, bien sûr. Le 1er décembre, 8 associations ont déposé plainte contre X pour fraude à l'étiquetage sur des pesticides qui ont mis en danger la vie d'autrui et atteinte à l'environnement, et plainte contre l'État français pour carence fautive. En cause, des herbicides vendus comme alternative au glyphosate, mais contenant des substances toxiques et des métaux lourds non déclarés sur les étiquettes. Ce qui est dénoncé, au-delà de ces herbicides, est le système d'évaluation des pesticides en France et en Europe, où seules les substances actives sont évaluées et non les adjuvants. Et voilà, et du coup, tout ça pour vous rappeler qu'il n'y a évidemment pas d'études sérieuses actuellement. L'ANSES n'arrive pas à faire son travail pour évaluer les pesticides en France, comme tous ceux qui sont produits dans le monde, et qu'il est compliqué de prendre soin de sa santé.
On saute au local et on part sur une petite insert téléphonique.
Vert ou lin.
Ouais, allô ?
Ah, allô ?
Ouais, ah bah formidable, tu me entends ?
Ouais, je t'entends de loin un peu.
De loin, alors attends. Il suffit que je crie normalement. Est-ce que tu m'entends là ?
Ah. Ouais, je t'entends mieux, ouais.
Cool. Et bah alors, bonsoir. Yes. Du coup, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment s'est passée ta matinée ? T'étais à un procès, je crois.
Ouais. Ce matin, on était convoqué à 9h devant le TGI. C'est le signal de temps d'instance à Rue Servan. Il y a quelques personnes qui sont venues un petit peu dans ce que l'on avait à 9h. Et c'est le concert de Stop.
La 5G.
Allô.
Ouais, tu nous entends là? Ouais, allô. Est-ce que tu nous entends encore
ouais,
ou pas?
Ouais. Un peu lent, mais...
Ah putain.
Peut-être qu'on retourne vers Roulin après, non?
Ouais, on dirait qu'on a des petits problèmes vu que la 5G n'est pas encore établie partout en France. On n'arrive pas à joindre notre correspondant. On va peut-être repartir sur les rubriques et passer au présent sécuritaire. Et puis, on essaiera de rejoindre notre correspondant juste après.
Et dis pas de mal des cochons.
Violence policière. Canu info.
La police qui suit, la police assassine. Les soins de drogue, nous sommes la police. La police mutine.
Violence policière.
Et alors que l'État nous prépare des lois de plus en plus liberticides et de plus en plus de pouvoir pour ceux qui nous tapent dessus et nous enferment, les nouvelles des violences policières et des violences du système carcéral continuent de tomber. On a appris cette semaine sur le numéro 0, le site Mutu de Saint-Étienne, que Alexis, un détenu de 27 ans, est mort dans la prison de Roanne en juillet dernier. On relaie cette info puisque la famille dénonce l'opacité autour de sa mort, des manquements dans la prison en charge d'Anthony, des erreurs et des défaillances. À savoir que ce qui a tué Alexis, c'est un feu de matelas dans sa cellule qu'il a asphyxié et que les matons sont allés le chercher, lui ont fait les premiers soins, mais l'ont pas amené à l'hôpital directement. Ils ont attendu 2 heures pour l'amener à l'hôpital où il a fini par décéder. L'administration pénitentiaire refuse de donner l'accès au dossier de la prison à la famille d'Anthony et d'Alexis, pardon, et Alexis, à savoir aussi qu'il était suivi pour des troubles psy, qui se plaignait régulièrement de ne pas avoir accès à son traitement. C'est aussi quelqu'un qui avait été jugé comme irresponsable de ses actes et transféré en hôpital psy, mais un arrêté préfectoral a remis en cause ce jugement. Ils l'ont renvoyé en prison, puis au mitard où il est mort. On tenait aussi à rappeler, au-delà de ce cas particulier, qu'en France, on compte un décès tous les 2-3 jours en prison, que la France, c'est un des pays de l'Union européenne où le taux de suicide en prison est le plus élevé, que les personnes s'y suicident 6 fois plus que dans le reste de la population en France, et que la France est régulièrement épinglée à ce sujet par l'Europe et le Conseil de l'Europe.
Et puis on avait envie de revenir sur les violences policières qu'il y a eu sur le mouvement social des retraites qu'il y avait l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, demain, c'est le 5 décembre. Et du coup, le 5 décembre l'année dernière, c'est le début d'un gros mouvement qui, je pense, nous a mis à chacun, chacune, pas mal la patate avant d'être un peu coupé par le confinement. Et au milieu de ce gros mouvement, dès le 10 décembre, il y avait Arthur qui s'est fait complètement passer à tabac par des CRS Place Bellecour. Et il y a eu un gros travail fait par le comité de liaison contre les violences policières qui est né justement au printemps 2019 pour un peu en réaction à cette montée des violences policières et à l'impunité dont bénéficient les responsables de ces actes, fait autour de ce passage à tabac, qui montre en fait que l'ensemble de la chaîne hiérarchique a couvert les faits. Cette enquête, elle est parue le 30 novembre, du coup ça nous paraissait un peu intéressant dans ce contexte-là de sécurité globale, enfin de cette loi-là qui proposait de sécurité globale, de vous parler un peu de cette enquête-là, parce qu'elle montre aussi que c'est vraiment les vidéos et les images qui ont été prises pendant ce moment de passage à tabac d'Arthur qui ont fait que, malgré que l'ensemble de la chaîne hiérarchique ait couvert les faits, aujourd'hui il peut peut-être encore se passer quelque chose. Et du coup, on va vous reprendre des petits bouts de cette enquête-là rapidement. Une dizaine de policiers ont été témoins directs ou indirects de l'agression d'Arthur par la BAC, dont un commandant d'unité et le chef d'état-major de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône lui-même. Pourtant, l'information n'a pas été transmise à l'autorité judiciaire. Il a fallu attendre la diffusion des images dans les médias pour que le parquet ouvre une enquête. Le comité contre les violences policières de Lyon a donc saisi la défenseur des droits et le procureur de la République pour que des enquêtes publiques soient menées sur ces faits d'une gravité exceptionnelle. En même temps, et du coup là le 30 novembre, ce comité il a publié une vidéo qui décrit en images les responsabilités de chaque échelon hiérarchique. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver notamment sur un site qui s'appelle rebellion.info. Alors pour vous refaire un petit contexte, si jamais vous avez oublié, on se retrouve là à 14h05, le 10 décembre 2019. La manifestation intersyndicale contre la réforme des retraites arrive Place Bellecour, un peu un classique. Arthur, lui, il est en train d'applaudir, juste devant un cordon de flics, essentiellement c'était la BAC. Quand il est soudain attrapé par un policier qu'il projette sur ses collègues. En 9 secondes, il est bousculé, roué de coups, jeté au sol. Quand il se relève, quelques secondes plus tard, il a la mâchoire et 9 dents cassées. Un enregistrement vidéo, non publié en totalité, mais que le comité a pu consulter, montre Arthur marchant hébété et gémissant. Il croise alors le commissaire divisionnaire d'épée, qui est le chef d'état-major de la DDSP. La DDSP, comme je vous dis, c'est la direction départementale de la sécurité publique, c'est-à-dire le numéro 4 de la police du Rhône. Ce jour-là, il est en outre directeur du service d'ordre, sous l'autorité du DDSP lui-même. Il y a aussi donc Patrick Chaudet, président dans ce dispositif. Le commissaire d'épée est en lien radio permanent avec le centre de commandement de la préfecture. Sur la vidéo, on l'entend demander à Arthur « Qui vous a fait ça ?» Arthur tend sa main droite et sa tête ensanglantée en direction de l'ouest où sont situés les policiers de la BAC et répond « Mais là, c'est eux ». C'est pas tout, hein. Il y a un commandant, chef d'unité, et donc lui aussi en lien radio avec le centre de commandement, qui a assisté directement au fait, puisqu'Arthur a été littéralement projeté sur lui, comme le montre une photographie de la scène. En outre, les deux commandants de la BAC de Lyon étaient eux aussi à quelques mètres des faits. Les images ne montrent pas s'ils en ont effectivement été témoins, mais leurs subordonnés, sans doute au moins une dizaine de policiers témoins de la scène, sans parler des 5 participants, auraient dû leur faire remonter les faits. Mais sur le PV, qu'est-ce qu'on lit ? On lit « Origine des blessures ignorées ». Donc en dépit de ces informations qui sont vraiment énormes, toute l'échelle hiérarchique a couvert les faits. Le procès-verbal de contexte de la manifestation, rédigé pour établir la liste des infractions constatées et leur donner des suites judiciaires, mentionne « Un individu blessé plaçant en un poncet, dent cassée, origine des blessures ignorées ». Cette mention n'est portée qu'à 14h38, au moment où les pompiers prennent Arthur en charge. Aucune mention des faits n'est portée dans le PV au moment où ils ont eu lieu. Cette lacune ne constitue pas le simple oubli d'une formalité. Alors que la direction de la sécurité publique était informée des faits, elle n'a manifestement rien fait et rien dit pendant 24 heures, faisant de fait obstacle à l'ouverture d'une enquête. En outre, Arthur a essuyé 2 refus d'enregistrer sa plainte, au commissariat d'abord, puis à la gendarmerie. Au final, l'enquête ne sera ouverte que le lendemain, après que le parquet a appris l'agression d'Arthur par voie de presse, grâce aux images publiées. Autrement dit, il y a tout lieu de penser que sans images, la chaîne de commandement policière serait restée muette et les faits non poursuivis. Sans images des policiers, la responsabilité de la DDSP n'aurait pas non plus été mise en lumière. Mais en fait, l'affaire s'arrête même pas là. Dès le surlendemain des faits, Arthur et son avocat remettent à l'IGPN 117 photos de la scène, d'une excellente qualité, qui montrent toutes sortes de détails sur les policiers agresseurs. Elles ont dû permettre très tôt l'identification des policiers participant à l'agression d'Arthur. Pourtant, lors d'une manifestation le 6 février 2020, donc près de 2 mois après les faits, le comité a pu observer l'un des policiers en cause dans une unité de la BAC, au moment où celle-ci chargeait la tête de la manifestation. Sur plusieurs photos, la corpulence et surtout la concordance de nombre de tailles vestimentaires ont convaincu le comité qu'il s'agissait bien du même policier. L'IGPN a indiqué par courriel au comité, lundi dernier, lundi 30 novembre, que s'agissant de faits graves, l'administration a ouvert, en vertu de son devoir de réaction, une enquête administrative confiée à la délégation de l'IGPN à Lyon, toujours en cours et qui devrait se conclure très prochainement, afin de déterminer si des manquements ont été commis. C'est-à-dire qu'en gros, plus d'un an après, il ne nous raconte rien du tout. Donc devant les députés, ce lundi 30 novembre, c'est le ministère de l'Intérieur qui a martelé à propos des violences policières. Des individualités ne sont pas un tout, je ne supporte pas et je ne supporterai pas qu'on porte atteinte à l'institution, celle de la police nationale et de la gendarmerie qui font un travail admirable. Bref, après les révélations publiées par le comité, le ministre va devoir faire plus que des simples discours. Car c'est bien l'institution tout entière et ses pratiques favorisant le déni qui sont en cause. Le comité a donc saisi le procureur de la République pour que les responsabilités pénales mises en évidence dans ce dossier soient examinées, à l'heure où seuls 2 policiers sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lyon pour l'agression d'Arthur. Ils doivent comparaître d'ailleurs le 10 décembre prochain. Le comité saisit également la défenseure des droits pour qu'une enquête approfondie et publique soit menée globalement sur l'ensemble des manquements déontologiques constatés. Dans cette affaire, le comité lui-même a fait l'objet de manœuvres d'intimidation en provenance d'une entité appartenant à un service gouvernemental pour l'ordre non identifié. En l'absence de nouvelles, 10 mois après les faits, le comité demande également à la défenseure des droits d'intervenir. Tout ça pour vous dire que c'est chouette ce travail que font ce collectif, là, surveillons-les. Que vous pouvez aussi les contacter si vous êtes témoin de violences policières. Vous pouvez leur envoyer un témoignage à leur mail, c'est surveillons-les, tout attaché, @riseup.net. Peut-être que vous avez entendu, vite teuf, là, cet après-midi, Macron, qui parlait sur le média brut, qui nous a dit, par exemple, « Je peux dire qu'il y a des violences policières si cela vous fait plaisir. » Ben non, ça ne nous fait pas plaisir, Monsieur Macron, qu'il y ait des violences policières. Par contre, on aimerait bien qu'elles soient dénoncées, et puis peut-être qu'à un moment donné, elles s'arrêtent.
Violences policières qui s'abattent sur des populations qui sont souvent les mêmes, celles qui vont en manif, celles qui font des manifs qui ne respectent pas les parcours déposés, mais aussi qui s'abattent souvent sur les quartiers populaires et aussi sur ceux qu'on nomme les migrants. Et cette semaine, on a appris des nouvelles innovations en termes de violences policières et de politiques sécuritaires mises en place à Calais, où la mairie ne trouve rien de mieux à faire que de raser tous les bois qui sont en bordure de route ou dans les zones de promenade où les exilés ont l'habitude de camper. Il y a 2 hypothèses qui ont été faites par rapport à ça. Une première de Gemen, un chercheur à l'université du Liège, qui dit que la mairie, elle fait ça pour que le gouvernement se rende compte de la galère dans laquelle ils sont à Calais. Hypothèse qui semble un peu bancale. On préfère l'hypothèse de Denethem, Touam Bona, qui est un philosophe, et qui relie cette pratique à une longue liste de dispositifs de chasse à l'homme qui sont mis en place aux frontières. Il dit que le but, c'est de transformer la forêt en espace panoptique. D'autant plus qu'actuellement, en même temps qu'ils rasent la forêt, ils installent des caméras aux abords de certains bois pour pouvoir surveiller les migrants. Et il faut rajouter à tout cela le harcèlement des associations qui distribuent de la nourriture, le tabassage régulier des migrants, la destruction des campements et des affaires, les réveils à coups de lacrymo, les tentes lacérées à coups de cutter, les déboisements qui avaient commencé petit à petit depuis 2015, des installations de barrières un peu partout dans Calais, la création de douves qu'on a inondées pour empêcher les ans de passer, et puis aussi le cumul de 64 km de grillage qui quadrille le Calaisis. Et Denethem conclut, privant d'hébergement ou de nourriture, l'État ne tue pas lui-même, il délègue aux éléments de la nature le travail de la mort. C'est une nécropolitique active mais discrète. Et pour compléter Denethem, on dirait que c'est la même que celle qui se passe actuellement en Méditerranée.
Et vous allez vous dire, ils n'aiment vraiment pas la police au Canu Info. Oui, oui, c'est vrai. Et donc, pour revenir sur quelque chose dont on vous a déjà parlé, pardon, à ce micro, notamment l'existence d'un groupe WhatsApp. Rappelez-vous, c'était avant les grandes vacances, un groupe WhatsApp de flics, qui avait été diffusé par Arte Radio et qui montrait qu'il y avait dans ce groupe WhatsApp des propos extrêmement fascistes. Et puis une semaine après, Street Press avait sorti un article sur un groupe Facebook privé qui rassemblait des milliers de flics, de policiers et de gendarmes, et où il y avait le même type de propos. Alors Street Press ressort aujourd'hui un nouvel article en lien avec ce même groupe Facebook qui n'a pas disparu. Christophe Castaner avait été contraint, c'était à l'époque le ministre de l'Intérieur, de convoquer le parquet afin d'ouvrir une enquête pour injures publiques à caractère raciste et provocation publique à la haine raciale. Le groupe se porte toujours bien, le groupe Facebook n'a pas été dissous non plus par Facebook, et il y a simplement 1000 membres en moins, lui qui comptait 8000 membres depuis cette affaire. 1000 membres en moins, mais sa présidente, enfin une présidente de l'association du CLIP, qui est une association de soutien aux forces de l'ordre, se réjouit de la bonne santé du groupe. Les demandes d'adhésion explosent, dit-elle. Près de 4500 sont en attente. Super. Donc ce groupe jouit d'une impunité immense. Il s'en prend notamment à des journalistes qui sont étiquetés comme gauchistes, notamment Taha Bouaf, le journaliste de là-bas, si j'y suis, également Jérôme Rodriguez, qui est un militant gilet jaune qui a été éborgné par la police pendant le mouvement des gilets jaunes et qui est raillé sur ce groupe Facebook pour son handicap. On se moque évidemment de lui. Et cette concentration autour de certaines figures pose un cadre où peut s'échauffer un discours raciste et islamophobe général visant toutes les personnes racisées et musulmanes ou assimilées comme telles. Alors dans l'actualité récente, c'est ainsi que, suite à la violente expulsion à la place de la République du camp d'environ 500 migrantes et migrants, vous avez sans doute vu ça, un policier dans ce groupe Facebook qui exerce à Paris commente et il écrit notamment « Il fallait d'abord verbaliser toutes ces petites merdes, puis procéder à l'expulsion de nos chères valeurs ajoutées pour la France. » Suite à un post évoquant une manifestation de ressortissants de la communauté turque en France, un brigadier-chef de la police municipale de Marseille poste un feu à volonté et un autre flic propose de lancer une grenade. On ne va pas multiplier ces exemples, ils sont nombreux, ils peuvent d'ailleurs pas vraiment être quantifiés. En tout cas, ce que ça montre, c'est que c'est un symptôme de la police, un racisme qui est systémique et sur lequel repose l'entièreté de l'institution policière, là où on a trop souvent tendance, en tout cas dans les médias, à parler de bavure ou de brebis galeuses. On a entendu ça encore dernièrement, brebis galeuses qui seraient minoritaires. Il faut bien ici rappeler que ces propos racistes sont des propos qui ont un caractère structurel, de la violence et du racisme de la police, et c'est pourquoi nous devons continuer d'exiger, évidemment, on l'a dit en début d'émission, le retrait total de la loi sécurité globale, et par là même, il s'agit également, au-delà de cette loi, de remettre en question l'institution policière dans son ensemble. Oui, oui. Abolissons la police. Et la solution ne vient jamais du problème. C'est ma prof de philo qui disait ça en l'an 2000.
Et oui, la solution ne vient jamais du problème, mais parfois dans le problème, on a quand même quelques bonnes nouvelles qu'on avait envie de se rappeler, parce que des fois, la défense des flics, elle chancelle, en tout cas, elle prend un petit coup cette semaine autour de l'affaire Adama. On se souvient d'Adama Traoré qui avait été tué par des gendarmes. Et cette semaine, ce qui tombe dans cette affaire, c'est que l'expertise médicale qui prétendait qu'Adama n'était pas mort d'une asphyxie positionnelle, c'est-à-dire qu'il n'était pas mort avec le poids des gendarmes sur lui qui lui faisait un plaquage ventral, mais qu'il était mort selon ce rapport d'un œdème cardiogénétique lié à une consommation de cannabis. Et bah tout ça, ça ne tient pas, et le rapport est retoqué. Alors il est retoqué pour un vice de forme surtout, puisque dans cette expertise, les médecins, ils ont fait appel à un médecin tierce, à un cardiologue, pour inventer cette hypothèse, et qu'ils ne l'ont pas mentionné. Et ça, visiblement, c'est interdit dans le code de procédure. Donc ça ne fait, fait pas tomber pour l'instant toute la défense des gendarmes, puisque ça invalide un rapport, mais ça ne prouve pas encore qu'il a été asphyxié directement par les gendarmes. La famille d'Adama, elle a fait réaliser d'autres expertises médicales qui concluent, elle, à un plaquage ventral, aux conséquences mortelles. Et la justice française, elle a commandé une autre expertise en juillet qui devrait être rendue début janvier. Donc on va continuer à suivre ça. pour le dire rapidement, dans les petites blagues judiciaires quand même, nous avons notre ami Claude Guéant qui est mis en examen pour association de malfaiteurs quand même dans le financement de la campagne libyenne de Sarkozy en 2007.
Et Sarkozy a vu ses agendas disparaître, lui. C'est ce que nous révèle Mediapart, la justice demandée dans l'affaire Paul Bismuth, hein, cette affaire de ligne téléphonique qui a été ouverte par Thierry Herzog, son avocat et meilleur ami. Paul Bismuth, c'était le nom de l'ami d'enfance de Thierry Herzog. Et donc, Thierry Herzog a ouvert en 2012, alors que Sarkozy venait de perdre l'élection présidentielle, une ligne téléphonique secrète pour parler justement a priori de cette affaire libyenne où seuls Herzog, Carla et Nicolas avaient accès à cette ligne. Bref, les enquêteurs et la justice qui voulaient avoir accès aux agendas pour recouper des informations de Nicolas, agenda que Nicolas avait par ailleurs déjà donné à la justice dans le cadre de l'affaire Bettencourt, rappelez-vous, pas l'affaire Clistream, pas l'affaire Big Ballion, mais l'affaire Bettencourt, eh bien, ces agendas, Nicolas les a perdus.
Ah, le pauvre Nicolas et le pauvre Guéant aussi, parce que pour faire un lien avec ce qui va suivre, il faut dire quand même que Guéant, il avait déjà des discours ultra nauséabonds et des lois nauséabondes comme celles qui sont portées par Darmanin. Ce fameux Guéant qui nous disait en 2012 qu'il fallait s'en prendre à l'idéologie relativiste de gauche. Je ne sais pas si ça vous rappelle les derniers discours. Et qui disait que
tout. C'était pas islamo-gauchisme encore à l'époque.
Non, ouais, le discours d'extrême droite n'avait pas encore assez pénétré la sphère médiatique. Et qui disait aussi que toutes les civilisations ne se valent pas. Bon, bah, ce bon vieux Guéant, il est devant la justice, et ça fait quand même sourire.
Oui, c'est vrai. Et Nicolas, pour terminer, quand même, il a dit bon, mes agendas, ça va quand même, vous êtes vraiment des complotistes, c'est un complot contre moi. Comme quoi, il y en a partout, il a dû voir Hold Up.
Et présent sécuritaire, futur sécuritaire, on voulait vous parler aussi de la loi de sécurité globale et de vous dire qu'il n'y avait pas que l'article 24 qui était nauséabond dans cette loi.
Et non, alors on vous rappelle que l'article 24 va sûrement être refourgué dans la loi des séparatismes, donc il n'a pas complètement disparu, mais que c'est pas le seul problème. L'article 24 autour du droit à diffuser des images de policiers est celui donc qui cristallise les critiques sur la loi de sécurité globale. Ce n'est pas le seul qui est critiquable dans cette loi, puisque tous les articles le sont. Un article de Paris Lutte Info met en avant d'autres articles problématiques. Par exemple, l'article 20, élargissement de l'accès aux images de caméras de vidéosurveillance aux agents de la police municipale, aux contrôleurs de la PREF, aux agents RATP et SNCF. On peut vous citer l'article 21, les caméras piétons de la police pour être visionnées en direct depuis des postes de commandement, ça fait rêver. L'article 22 peut-être, élargissement de l'usage des drones pour les rassemblements, les littoraux, la régulation des flux de transport, les constats d'infraction, etc. Toute cette loi de sécurité globale prévoit aussi un couplage de ces nouvelles mesures avec la reconnaissance faciale et les fichiers de police, et ça fait vraiment flipper. En gros, ces images pourront être croisées avec les fichiers comme celui du traitement des antécédents judiciaires. L'article 23 rappelle que c'est la fin des réductions des peines automatiques, comme pour tout condamné, pour les auteurs de violences contre la police, les militaires, les pompiers et les élus. L'article 25 prévoit une autorisation aux policiers et gendarmes à porter leurs armes hors service dans les lieux recevant du public. Salles de spectacle, stades de sport, centres commerciaux par exemple. Jusqu'à maintenant, c'était soumis à un accord. Cet article, sur l'article de Paris Lutte, vous pouvez retrouver des sources pour aller plus loin. Vous pouvez aussi écouter l'émission sur ce sujet faite par Radio Parleur. Mais en fait, tout ça très rapidement, surtout pour vous rappeler qu'il faut continuer à se mobiliser contre cette loi dite de sécurité globale.
Et le climat français, c'est aussi, évidemment et tristement, l'islamophobie complètement débridée à la tête de l'État. Et ça s'est passé notamment mercredi, au Conseil des ministres, par la dissolution du CCIF. Voilà, le CCIF, c'est le Comité contre l'islamophobie en France. Oui, ils ont dissous le Comité contre l'islamophobie. C'est pas une mauvaise blague. C'est la quatrième organisation dissoute sur décision gouvernementale en un mois et demi. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur a rendu le décret de 4 pages motivant cette dissolution à paraître au journal officiel ce jeudi. Donc le rapport est paru. 3 reproches principaux s'en dégagent et motivent la dissolution du CCIF. La façon dont le collectif définit et utilise le concept d'islamophobie, ses fréquentations radicales et son inaction dans la modération des commentaires, notamment sur ses pages de réseaux sociaux et sur son site internet, suscité par ses publications. Alors, comment a réagi le comité ? Ben, le collectif qui a été créé en 2003 s'est déjà fait savoir fin octobre qu'il décidait de mettre un point final à ses activités en France. Il a annoncé son déménagement de son siège à l'étranger et le transfert de ses actifs à des associations partenaires qui se chargeront de prendre le relais de la lutte contre l'islamophobie à l'échelle européenne. Voilà. Le gouvernement maintient de son côté que le CCIF doit être regardé comme provoquant à la haine et à la discrimination et à la violence, voire qu'il encouragerait au terrorisme. On rappelle que cette décision a été prise après l'assassinat de Samuel Paty, juste avant les vacances de la Toussaint. Dans son décret un peu plus en détail, le gouvernement s'en prend en premier lieu à la définition de l'islamophobie retenue par le collectif. Je cite le rapport du gouvernement, en qualifiant d'islamophobe des mesures prises par le but de prévenir des actions terroristes et de prévenir ou combattre des actes punis par la loi, le CCIF doit être regardé comme partageant, cautionnant et contribuant à propager de telles idées. C'est-à-dire que le CCIF publie des articles ou des commentaires qui critiquent les lois antiterroristes du gouvernement, qui les jugent parfois islamophobes, et ceci, ben, le gouvernement juge que c'est des prises de position à caractère terroriste et qui stimulent les envies terroristes, les envies de meurtre, etc. De plus, les prises de position du CCIF, souvent critiquées à l'égard des politiques de lutte contre le terrorisme et la radicalisation telles qu'elles sont menées en France, différer de ce qu'on a pu, de ce qu'a pu affirmer d'autres associations de défense des droits humains. Voilà, donc il s'appuie également là-dessus le gouvernement pour dire que eux, c'est vraiment des radicaux et des méchants. Le gouvernement affirme aussi que l'association, je cite là aussi, distillait par la publication de ses propres statistiques ou ses dénonciations un message consistant à faire passer pour islamophobe tout acte ou événement mettant en cause des personnes de confession musulmane, n'hésitant pas, dans certains cas, à travestir la vérité. Voilà, là encore, le décret reproche au CCIF sa façon de dramatiser des événements, tandis qu'il aurait contribué, et c'est ce que dit ce rapport, et c'est même écrit noir sur blanc, de légitimer des actes terroristes. Voilà. J'accélère un petit peu parce qu'on est un peu à la bourre et en retard. Tout ça pour dire quand même que Amnesty International avait dit le 18 novembre que la dissolution du CCIF serait un coup porté au droit à la liberté d'association et aurait un effet dissuasif sur tous les défenseurs des droits humains engagés dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Bah, ça n'a pas fait peur au gouvernement. Et il continuait, à ce jour, les autorités françaises n'ont fourni aucune preuve susceptible de justifier la dissolution de cette association. Rien ne montre que le CCIF représente un danger manifeste et imminent pour la sécurité nationale ou l'ordre public qui pourrait justifier sa dissolution. C'est Amnesty International qui dit ça et c'est pas un ramassis d'islamo-gauchistes, il me semble. D'autre part, il y a en ce moment sur la table des ministres une loi en préparation qui participe aussi très largement à l'installation et à la poursuite plutôt du climat islamophobe français. C'était la loi qui s'appelait contre les séparatismes au départ et qui a été renommée. Alors ça s'appelle comment ? C'est le projet de loi confortant les principes républicains. Voilà, ça sonne pas bien mieux quand tu connais leurs principes républicains. Et en gros, quand même, c'est pas une petite loi qui est en préparation. Là, c'est une loi qui va toucher 4 lois fondamentales des libertés publiques de l'histoire de la République française. Celle de 1881 sur la liberté de la presse, celle de 1882 sur l'instruction primaire obligatoire, celle de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, et celle de 1907 sur l'exercice public des cultes. Donc, toutes ces lois vont être refondées, en tout cas modifiées en partie par ce nouveau projet qui prévoit un renforcement, de renforcer la police des cultes en étendant les motifs de fermeture des espaces religieux et en alourdissant les régimes de sanctions à l'encontre des associations religieuses. Voilà, alors on retiendra notamment une lettre de Jean Bobéreau, qui est un historien spécialiste de la laïcité, qui l'a envoyé à Emmanuel Macron et qui a pris soin de faire un double qu'il ne nous a pas envoyé, mais qu'il a envoyé à la presse, d'autres journalistes que nous, et qui écrit « L'Église catholique respecte-t-elle ses valeurs ?» Donc les valeurs notamment qui étaient critiquées et qui justifient cette loi sur le séparatisme, c'est des valeurs jugées sexistes, homophobes, etc., dans les mosquées, dans certains prêches. Donc Jean Bobéreau qui dit « L'Église catholique respecte-t-elle ses valeurs de la République quand elle interdit l'accès de la prêtrise aux femmes ?» Et pourtant, elle n'est pas poursuivie pour discrimination à l'embauche. Et que dire des maçons dont toutes les loges sont loin d'être mixtes? Et on pourrait, là, si on devait se plonger, y compris dans les textes religieux, bibliques, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, trouver beaucoup à redire sur les questions de sexisme, d'homophobie. Évidemment, ça n'a jamais empêché, ça n'a jamais amené la République à fermer des lieux de culte. Voilà pour la partie islamophobe.
Et oui, alors moi j'avais prévu de vous passer un petit son de Médine, parce que ça allait super bien avec, et qu'il a un super son qui est sorti, qui s'appelle Voltaire, et qui parle un peu de tout ça, qui est très très chouette, et qui le résume plutôt bien. Mais on est en retard, bien sûr, et par contre, on a retrouvé notre technicien téléphone, qui nous a fait une belle technique tout à l'heure, et qui voulait nous donner des nouvelles. C'est passé par texto, je crois.
Et oui, oui, parce que peut-être que dans Hold Up, on parle de complot, de tout ça, mais moi je pense qu'il y a un complot contre les inserts téléphoniques à Radio Canu. Donc sache quand même, animateur ou animatrice de Radio Canu, que c'est le moment de payer tes cotises, parce que les deux téléphones de Radio Canu sont pétés, ce qui est quand même un peu triste. Il faudrait qu'on ait un peu de sous. Du coup, j'ai pu joindre le copain qui était, qui voulait nous parler de ce qui s'est passé ce matin au TGI, pour qu'il me raconte un petit peu pourquoi il y avait un rassemblement devant le TGI, donc le tribunal de grande instance de Lyon. Et bien tout simplement parce qu'il y avait un procès d'un lieu occupé, d'un squat comme on les appelle, qui se trouve à Oullin, parce que le propriétaire de ce squat, je vous le donne en mille, c'est la métropole, avait demandé l'expulsion immédiate de ce squat. Qu'est-ce qui se passe à Oullin? Et ben, du coup, c'est vers le quartier là où il y a la gare et compagnie. Il y a eu un lieu qui a été ouvert à peu près vers mi-juillet, dans lequel il y a une vingtaine de personnes qui habitent. Donc il y a des personnes seules et aussi des familles. Et donc c'est dans un bâtiment de la métropole. Ce bâtiment, vous me direz, mais à quoi il pouvait bien servir? Et ben, il était vide depuis 2009. Donc il servait finalement à code, et il n'y avait pas de projet sur ce lieu. La seule idée, c'était de le démolir, et de le démolir quand? D'ici à 5 ans, donc entre 2009 et 2025, ce lieu ne devait pas du tout servir, alors même qu'il y a des milliers de personnes dehors. Donc les personnes sont rentrées dans le lieu et ont commencé à l'occuper et à habiter dedans. Tout se passe bien avec le quartier, il n'y a aucun souci, c'est plutôt chouette, et c'est plutôt un lieu au contraire qui dénote un petit peu dans un quartier qui était un petit peu en train d'être démoli petit à petit, d'être de plus en plus vide. Et ben là, il y a un lieu qui revient, qui remet de la vie dans ce quartier. Et du coup, c'est assez chouette. Et alors, le propriétaire, c'est la métropole. La métropole, c'est un des plus gros propriétaires de Lyon. C'est du coup un acteur, en fait, ben, normalement, du logement social. La métropole, Grand Lyon Habitat et compagnie, c'est censé être la métropole qui construit des logements sociaux, qui permet du coup aux personnes à la rue de trouver un logement. Et ben, la métropole, elle a demandé l'expulsion immédiate de ce lieu. Les copains et copines qui étaient au procès, et du coup surtout leurs avocats et leurs avocates, ont demandé en fait un renvoi du procès pour avoir le temps de préparer leur défense et surtout de demander un délai. Du coup, il y aura une nouvelle audience le 18 décembre. Donc le 18 décembre, c'est dans deux semaines, ça sera un vendredi matin, et il y aura à nouveau un rassemblement à 9h du matin pour venir soutenir ce lieu. L'idée, c'est de demander un délai pour rester le plus longtemps possible. L'idée, c'est d'obtenir un conventionnement jusque du coup, ben, à la fin enfin le plus longtemps possible, et quitte à rester jusqu'en 2025. Pourquoi en fait? Et ben parce qu'en fait, c'est des personnes qui habitent là-bas et qui n'ont pas accès à un circuit de l'hébergement classique, qui peuvent certes avoir déjà été hébergés dans des hébergements d'urgence, dans des hébergements temporaires, mais du coup dans des hébergements, elles ne choisissent pas où c'est, qui peuvent se retrouver très loin de Lyon, qui peuvent se retrouver dans des conditions très compliquées. On peut se retrouver dans un hôtel, on ne peut pas se faire à manger, on peut se retrouver voilà, du coup dans des conditions d'hébergement tout à fait indignes. Et alors même, pour avoir cet hébergement, il faut attendre, je vous rappelle, des délais qui peuvent aller de 1 an et demi à 5 ans en fonction de qui on est, comment. Et ce que tenaient à mettre dans leur défense du coup les habitants et les habitantes, et ben c'est le fait que ça se passe très très bien. Alors, ils appellent ça absence de troubles à l'ordre public, mais en gros ce qui veut dire, c'est que ça se passe plutôt bien sur le quartier. Et du coup, ben, ce qu'ils trouvaient important, les habitants et les habitantes, c'est de rester dans les lieux le plus longtemps possible et surtout de montrer le fait que c'était leur premier logement en France. C'est des personnes qui peuvent être en France depuis longtemps, mais là, enfin, c'est un vrai logement qu'ils ont, avec un appart, avec comme vous et moi, avec un, hop, une porte, avec de pouvoir ranger sa bouffe, de pouvoir s'installer vraiment dans un endroit. Et du coup, c'est la première fois qu'ils puissent avoir un lieu qui ressemble vraiment à un chez-soi. Du coup, on espère que ces personnes du coup du squat Doulin vont obtenir un délai. Le prochain rendez-vous, ça sera vendredi dans 2 semaines, mais je pense bien qu'on en reparlera dans le Canu Info du vendredi.
Attention, petit moment nostalgie pour nos fidèles et fidèles auditrices, auditeurs de Radio Canu. Souvenez-vous de ce son qui habillait les fameuses chroniques de vitrines brisées. Nous l'avons ressorti. Peu de vitrines tombent en ce moment, mais visiblement, il y a des choses qui brûlent. On a appris sur Marseille Info Autonome, qui est le site coopératif Mutu de Marseille, l'équivalent de notre fameux Rebellion, qu'il y a plusieurs endroits dans notre pays et au-delà, où des antennes et des installations téléphoniques brûlent. Une petite liste pour se réchauffer le cœur en ces temps difficiles. Dans la nuit du 30 au 1er décembre, un local technique du massif de l'Étoile à Marseille a brûlé, privant 3,5 millions de personnes de la TNT et de la radio.
À Cergy-Pontoise, où des armoires de raccordement à la fibre ont été incendiées, et bim.
À Bologne, le 23 novembre, un relais de téléphonie a pris feu.
En Isère, le 17 novembre, une antenne a cramé. Bon, faire attention, des fois en Isère, ils se trompent, ils crament pas les antennes 5G, mais les antennes radio. Du coup, la fameuse Radio Dragon ne peut plus être diffusée, mais bon.
Dans l'heure, le 13 novembre, des armoires de fibres ont brûlé.
Et quelques jours plus tôt, à nouveau en Isère, dis donc, ils prennent cher en Isère, le chantier d'une antenne 4G a été saboté.
Et puis, début novembre, à Toulouse, c'est une antenne 5G qui a pris feu. On signale aussi, pour nos amis passionnés de technique et de bonnes intentions, qu'une brochure sur le sabotage des antennes relais et des réseaux électriques a été publiée sur InfoKiosque. On rappelle à ces mêmes amis qu'il vaut mieux aller chercher tout ça avec une connexion sécurisée.
Et oui, parce qu'on vous aide au Canu Info de vendredi. Et pareil, si vous ne savez pas vraiment quoi aller vandaliser ou saboter, il y a un appel à action décentralisée qui a été lancé en soutien à la lutte à Bure. Pour mémoire, à Bure, une lutte est engagée depuis plusieurs années contre un projet d'enfouissement des déchets nucléaires, le projet Cigéo. Afin de mener leur projet à bien, Cigéo a besoin d'une multitude d'entreprises d'ingénierie, de BTP, etc. L'une d'elles se nomme Poma. Elle est spécialisée dans le transport par câble, notamment dans les mines, les cimenteries, tourisme. Elle a été sélectionnée par Cigéo pour créer un système de descente des matériaux radioactifs à 500 mètres de profondeur. L'appel à action vise tout type de locaux, infrastructures ou chantiers de Poma pour leur faire passer le goût de participer au projet de poubelle nucléaire. La cartographie, elle est retrouvée sur un site qui s'appelle enfouissons-du-site poma.info.
Bien. Non, j'allais dire, ouais, tu parlais de... On a le temps là, non?
Oui.
Bon. Non, tu disais connexion sécurisée.
Oui, c'est ça.
Ça paraît important en effet d'utiliser Tor. Je viens de lire que le fichier Edvige est de retour. Ah. Vous vous rappelez ce fichier Edvige qui était là pour former une espèce de liste non exhaustive des militants dangereux. Alors ce fichier Edvige est de retour. Le ministère de l'Intérieur donne un blanc-seing à la police pour, je cite, « ficher les opinions politiques, les convictions philosophiques, religieuses ou l'appartenance syndicale de toute personne susceptible de menacer l'ordre public ».
Encore une nouvelle de merde, merci. Bah nous, on va quand même se demander ce que ça veut dire à câble, je crois, hein, c'est le moment.
Alors là, on a
je
le choix,
m'appelle
nous.
Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à câble.
Canu Info du vendredi.
Et parce que la science n'est pas une donnée objective et qu'il y a plein d'hypothèses qui circulent en linguistique de la câble comme en physique nucléaire, nous avons une liste incroyable.
Aïe, Castex, il mange des acras avec Blanquer.
Mais alors ça pourrait aussi vouloir dire « alimentons les complots avec Bismuth ».
Arrêtons de compter les attaques, on monte des barricades.
Allumons les cocktails, arrêtons les blagues.
Oh. Il paraît que ça voudrait dire les agendas cachés de l'ami Bismuth, tout simplement.
Mais ces agendas, dis donc, ça pourrait être aussi les agendas complotistes, appel aux barricades. Il y a pas mal d'agendas de barricades quand même.
Non, 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 sur les agendas, c'est plutôt les calendriers. Moi, je pensais acheter un calendrier pour qu'on aime Black Screen. Cœur avec les doigts.
Ouais, bon, je pense plus basiquement, ça pourrait vouloir dire acquérir une capuche, adhérer au Black Bloc.
Waouh. Et alors, t'as un truc à
balancer ? Non, j'allais dire, sinon on peut aller à la manif demain, voilà. À 15h, à la place Lyautey, pour savoir vraiment ce que ça veut dire. Peut-être là-bas, les gens, ils sauront nous expliquer.
Voilà, la place Lyautey, c'est l'arrêt Foch, et autrement, après, on va toutes et tous à la Lutine pour avoir un calendrier. Alors le truc, c'est que ma maman et ma mamie nous écoutent, mais ne sont pas à Lyon, ils ne seront pas demain à la Lutine, et ils ne sont pas sur Instagram. C'est quoi l'adresse pour commander l'adresse mail ?
Ah mince, attends, faut que je retrouve mon
grande-du-6 lutine @ rébellion.info.
Ah, j'ai mon doigt qui pousse Médine, attention.
Allez, bonne soirée.
À la semaine prochaine.
Ciao. Allez, vous traitez, m'achetez comme vous avez traité Kanta. Menel ou Mila, le traitement n'était pas équitable. Je croyais que les chiffres allaient changer le game et la machine. Mais lutter contre le feu, c'est plus facile que de lutter contre leur bureaucratie. Parole sous surveillance orwellienne, et la censure est en chemise hawaïenne. Tu veux qu'on reste poli dans nos mal-êtres, tu lis de travers comme Apolline de Malherbe. Y'a que du racisme systémique, derrière leur on ne peut plus rien dire. Restez dans l'entre-soi médiatique, en vrai c'est vous les vrais communautaristes. Nous on voulait juste vivre de nos plumes, les avoir dans la main mais pas dans le cul. Maintenant même ma main me cache de l'écrit, sûrement par peur de subir l'autocensure. Je veux parler de police, de plaquage ventral, que pour quatre marques il n'y ait pas qu'un mourave. Au lieu de compter les noirs dans ton festival, je veux qu'on nomme une rue Ayana Kamoura. Ni de la faute à Rousseau, c'est peut-être la faute à un tel, ou peut-être la faute à un autre. C'est ni de la faute à Voltaire, ni de la faute à Rousseau. Mais c'est jamais pour nos frères qu'on sépare l'œuvre de l'homme. C'est ni de la faute à Voltaire, ni de la faute à Rousseau. C'est peut-être la faute à un tel. On est à l'heure, alors on laisse avec Noise Pollution.